Chapitre 2. F, assez fréquenté aujourd'hui, l'était fort peu il y a quelques années. La foule s'entêtait à ne pas venir occuper les vastes établissements préparés à son intention et dont l'édification avait ruiné complètement celui qu'il avait entreprise. Vers les premiers jours d'août, l'une de ces dernières années, le successeur de l'entrepreneur malheureux, trompé dans ses espérances, se tenait debout à la principale entrée de son établissement, en frac irréprochable, les joues dépassées par les deux pointes de sa cravate blanche, une main gantée, l'autre nue. Il souriait d'une façon amère aux voyageurs prochains qu'il attendait sans doute, car à chaque moment, il regardait l'heure à sa montre. Monsieur Duplancher, qui avait acquis une petite fortune dans le commerce à Paris, avait eu l'idée, en apprenant la mise en vente du casino de F et de ses dépendances, d'acquérir cet immeuble et de tâcher de réussir où un autre avait échoué. Il s'était rendu à F et un sourire de mépris pour la maladresse du vendeur ruiné avait effleuré ses lèvres devant la beauté de la plage et la bonne tenue de l'établissement, bien fait d'ailleurs pour charmer les yeux. En face des dernières maisons de la petite ville, humble cabane de pêcheurs à moitié ruinée, se dressent insolemment les écuries, les communs et les logements de ceux que M. Duplancher nomma son personnel. Puis la bâtisse tourne à angle droit et fait face à la mer. Elle se développe alors et rampe comme un reptile au pied de la falaise. Elle n'a qu'un étage au rez-de-chaussée, couronné par une terrasse et se compose d'une enfilade de salles, peu large, mais en revanche d'une longueur extraordinaire. Les exigences du génie militaire ont motivé ce singulier mode architectural. Une batterie établie au flanc de la falaise surveille et défend les côtes, rien ne doit gêner la vue ni le tir, et le monument, pour être toléré, a dû s'aplatir le plus possible. Seuls deux pavillons de briques à toit en été noir ont trouvé grâce et ont pu s'élever de trois étages, mais ils sont si éloignés l'un de l'autre que l'effet symétrique est perdu. La construction de ce long édifice est d'une légèreté extrême et il n'est pas sans danger de se promener sur les terrasses. Un jour, une dame étrangère s'y étant hasardée, le sol se creva sous ses pas comme une peau de tambour et deux individus qui jouaient au billard furent assez surpris de voir apparaître au-dessus de leur tête deux jambes en détresse qui s'agissaient. Depuis cet événement tragicomique, l'accès des terrasses est interdit. À l'extérieur, la muraille, ou plutôt la cloison, car la muraille est de bois, est peinte horizontalement de bandes alternativement couleur de chocolat et couleur de pain d'épices, la frise à jour qui sert de balustrade à la terrasse est d'un beurre frais très tendre. La cloison est percée de très nombreuses portes vitrées et de larges fenêtres, afin qu'on puisse voir, tout en dînant, non pas la mer, il est impossible de l'apercevoir, mais un talus qui se dresse entre la mer et l'établissement et qui monte vers un promenoir sablé. Au-dessus de la porte d'entrée, on lit en vastes lettres jaunes sur fond marron « Grand hôtel des bains de la plage ». Monsieur Duplancher a longuement mûri la formule de son enseigne. Il avait trouvé des titres plus ambitieux, mais il s'est dit « Il faut être simple ». Au-delà de l'hôtel commence le casino proprement dit. Une barrière de bois peinte en jaune traverse la route et empêche de passer. Pour entrer dans le sanctuaire, il faut être abonné ou bien payé. Le bureau est un chalet suisse qui limite la promenade du talus. Il y a deux guichets, l'un pour les cachets des bains et la location des costumes, l'autre pour l'entrée du casino, mais une seule guichetière, la fille de Monsieur Duplancher. En échange de 50 centimes, elle vous donne en souriant un bout de papier rose et vous entrez. Mais la porte franchie, un vieil homme en costume d'invalide jaillit d'une sorte de guérite et vous prend poliment votre papier. Toute mise en scène remplit d'orgueil l'heureux monsieur Duplancher. Enfin, l'on se trouve dans un jardin. On marche sur une couche de jolis cailloux blancs, si épaisse et si remuante qu'on peut à peine se tenir debout. Ces cailloux sont d'ailleurs ce qu'il y a de mieux dans ce jardin où l'on n'aperçoit pas un seul arbre. Le dessin des plates-bandes est ingénieux, mais les fleurs se refusent absolument à y pousser. Monsieur Duplancher ne s'explique pas cet entêtement de la végétation. Quant au casino lui-même, il présente la figure d'un E majuscule couché. La barre principale longe la falaise et fait face à la mer. Les deux autres lui présentent le flanc. L'une est un café enrichi de plusieurs billards, l'autre une salle de bal, de concerts et de spectacles. Le bâtiment qui les relie contient les salons de lecture, de jeux, de conversation et une interminable galerie réservée aux solennités municipales. Pour affirmer son autorité, M. Duplancher a rédigé un avis qu'on peut lire dans tous les salons. Défense d'emporter les journaux. Défense de monter sur les meubles. Derrière la salle de bal s'élève un établissement d'hydrothérapie et de gymnastique, puis un charmant hémicycle percé de 20 portes qui s'ouvre sur des cabines de bains chauds. Enfin, une brusque saillie de la falaise met un terme à cet essor architectural. C'était donc sur la principale porte de l'hôtel que M. Duplancher, dans une attente pleine de dignité, embrassait avec satisfaction l'ensemble de son domaine. La falaise se dressait derrière les constructions, encadrant la rougeur sombre des roches nues de l'admirable velours du gazon normand. Tout au fait, des champs de blé dorés ou bruns tremblaient sur le bleu pâle du ciel. La nature s'ingéniait à harmoniser les couleurs, à les unir par des transitions d'une infinie délicatesse. Le casino, au contraire, était net, brutal, criard. La nature avait beau faire, elle ne pouvait se l'assimiler, il tranchait impitoyablement, se refusant à tout accord. M. Duplancher s'inquiétait peu de cela. Un bruit lointain de grelots et de chevaux qui trottent se fit entendre du côté de la ville. Le maître d'hôtel passa vivement sa main nue chargée de bagues sur sa chevelure collée par une pommade abondante. Un omnibus tourna l'angle du restaurant. M. Duplancher sourit. L'omnibus approcha. Mais il était vide. Une grande surprise se peignit sur les traits de l'ancien commerçant. « C'est curieux, se dit-il, personne. Les étrangers sont en retard cette année. C'est égal, ils ne peuvent manquer de venir. » J'ai fait tout ce qu'il fallait, articles dans les journaux, grandes affiches bleues avec une vue au milieu, et puis un si bel endroit. Il regarda encore une fois sa montre. « Allons, » fit-il. Et il s'éloigna, faisant sonner ses bottes vernies sur le trottoir de bitume qui borde l'hôtel et le restaurant dans toute sa longueur. Bientôt, un tintement régulier domina le monotone bruissement de la mer. M. Duplancher agitait lui-même la cloche de la table d'hôte. Alors trois vieilles missis sortirent, graves et raides, des profondeurs de l'hôtel et s'assirent solennellement à la table. Deux parmi elles étaient sœurs et offraient un visage analogue. Long, aux dents saillantes, à la peau blanche et flasque, aux bandeaux plats et couleur d'acajou. L'autre ressemblait à une vieille petite marquise avec sa figure chiffonnée, ses cheveux gris, disposés en boucles folles, contenus par l'avancement d'un prodigieux chapeau, à la mode en des temps disparus et qu'elle ne quittait jamais, pas plus que le petit châle vert orné d'une palme dans le dos qu'elle serrait sur ses maigres épaules. L'aimable demoiselle avait l'oreille dure, mais pour faire mentir le proverbe « crier comme un sourd », elle parlait d'une voix si discrète qu'il était impossible de saisir un mot de ce qu'elle disait. Deux commerçants du Havre de passage à F entrèrent par la porte extérieure du restaurant. Madame et Mademoiselle Duplancher arrivèrent. « Servez !» dit le maître de l'établissement. Puis, se penchant à la fenêtre, « Ne dételez pas, Félix » cria-t-il au cocher de l'omnibus. « Il va falloir aller à la gare pour l'arrivée du train de 7 heures. Il nous viendra sans doute beaucoup de monde. » Puis il s'assit au bout de la table et murmura, en fermant à demi les yeux, au bruit des cuillers heurtant le fond des assiettes, « Décidément, je suis enchanté de m'être embarqué dans cette entreprise. » Aussitôt le dîner fini, les trois missis replongèrent dans les profondeurs des corridors, les deux commerçants allèrent jouer au billard et la famille Duplancher resta seule. Il faisait encore jour. Quelques personnes du pays se promenaient sur la plage. Bourgeois, matelots, femmes à la tête nue ou coiffées de bonnets. Un vieillard à la barbe blanche, aux yeux doux, s'approcha d'une des fenêtres du restaurant. « Bonsoir, mesdames et messieurs, » dit-il. « Bonsoir, monsieur le mercier, » répondit toute la famille. Eh bien, du plancher, vous est-il venu des voyageurs aujourd'hui ?
Jusqu'à présent, non, mais il en viendra tout à l'heure.
Pas plus qu'hier, pas plus qu'il n'en viendra demain.
La journée n'est pas finie, insista du plancher.
Quel homme admirable vous êtes ! L'espoir ne meurt jamais en vous. À chaque omnibus qui vous revient bredouille, vous vous dites « ce sera pour le prochain voyage ». Votre foi n'est pas ébranlée.
Mais pourquoi n'aurions-nous pas d'étrangers ici ? Connaissez-vous une plage plus belle que la nôtre ?
Non, il n'y en a pas de plus belle sur les côtes de Normandie.
Les promenades des alentours sont magnifiques.
C'est vrai.
Avez-vous jamais vu un établissement plus confortable, plus vaste, plus artistique que le mien ?
Je n'ai rien à dire contre votre établissement.
Eh bien alors ?
Eh bien, toutes les raisons sont pour vous, et c'est justement pour cela qu'il ne vient personne.
Comment ? Je ne comprends pas, fit Duplancher.
Voyez-vous, mon cher monsieur, la foule ne va pas dans les endroits beaux, commodes, agréables. Elle va dans les trous où il n'y a rien à voir, où elle est mal logée, où elle mange mal. C'est une façon à elle de faire preuve d'indépendance et d'originalité.
Vous êtes paradoxal, monsieur le Mercier, répondit Duplancher, non sans amertume. À force de vivre avec les livres, vous vous êtes fait sur les hommes des idées tout à fait bizarres, et vous me permettrez d'avoir de l'humanité une opinion meilleure.
Et il ajouta entre ses dents, les gens du pays n'ont pas tort de dire qu'il est fou.
Puis il reprit,
nous allons voir d'ailleurs, voilà l'omnibus qui revient.
Parions qu'il n'amène personne.
« Eh bien, je tiens le pari !» s'écria Duplancher en frappant sur la table.
« Que parions-nous ?»«
Un pot de cidre, » dit le Mercier.
« Allons donc, une bouteille de champagne. »«
Soit !»
Les deux hommes échangèrent une poignée de main au moment où l'omnibus tournait le coin de la rue.
« Eh 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 !» dit Duplancher, « il me semble que l'impérial est bosselé par des bagages. »
Les deux femmes se précipitèrent tout dehors.
« Bah, quelques bottes de foin que Félix rapporte de la ville !» insinua le Mercier.
« mais non, ce sont des mâles, de vrais mâles. Je les vois parfaitement. »
Un sourire narquois éclairait le visage de M. Duplancher et il passait sa main dans ses cheveux comme un homme qui se prépare à un événement solennel.
« Ma foi, c'est positif, dit le Mercier. Ce sont des mâles. »
« Et deux voyageurs dans la voiture !» ajouta l'honnête propriétaire.
Deux, en effet. Allons, mon cher Duplancher, c'est avec grand plaisir que je perds mon pari.
Des voyageurs, répétait Duplancher rayonnant.
L'omnibus arriva. Félix fit faire une savante manœuvre à ses chevaux afin que la portière de la voiture se trouvât en face du trottoir. Les rares promeneurs de la plage s'étaient arrêtés curieusement. L'omnibus fit halte et la portière s'ouvrit. Un homme d'une soixantaine d'années descendit de l'omnibus, puis il tendit la main à une jeune femme qui sauta lestement à terre.
« Vous avez deux chambres ? » demanda-t-il.
« Presque toutes mes chambres sont retenues, » répondit effrontément Duplancher. « Mais il y en a deux dont je puis disposer encore.
Faites-y monter nos bagages et servez-nous à dîner. »
Les nouveaux venus entrèrent dans la salle. La jeune femme alla vers un miroir, ôta son chapeau et fit bouffer son extraordinaire chevelure blonde.
« Qu'est-ce que monsieur désire manger ?» demanda Duplancher gracieusement.
« Ma foi, servez-moi ce que vous voudrez, » dit le voyageur en s'asseyant au bout de la table.
« Et mademoiselle, votre fille ?»
La jeune femme éclata de rire.
« Mademoiselle n'est pas ma fille, » dit l'étranger avec embarras. « Elle est ma... »«
Votre nièce ?» dit Duplancher en souriant.
« Oui, ma nièce. »«
Vous m'excusez, n'est-ce pas ? Je ne pouvais pas deviner. »
« La bonne histoire !» s'écria la jeune femme, riant toujours. « Allons, servez-nous vite, je meurs de faim. »«
Tout de suite, mademoiselle, et quel vin prendrez-vous ?»
« Du champagne, » dit la nièce.
« Une bouteille de Bordeaux pour moi, » dit l'oncle. Avant de servir, Duplanchet alla chercher le livre des voyageurs, le présenta tout ouvert à son hôte et lui tendit une plume trempée dans l'encre. L'étranger écrivit « Monsieur Alfred Provost, rentier ». Il hésita un instant et ajouta « Mademoiselle Lucienne, sa nièce ». « Sa nièce, c'est donc sérieux ?» murmura Lucienne qui le regardait écrire. « Tais-toi donc !» dit Monsieur Provost. Alors la jeune femme se tourna brusquement vers Duplanchet. « Il me semble qu'il n'y a pas grand monde ici, » dit-elle. « Oh, mademoiselle, dans quelques jours je ne saurai où mettre les voyageurs !» dit Duplanchet qui s'éloigna un peu confus. « M'expliquerez-vous ce que signifie cette parenté que vous avez imaginée ?» dit Lucienne lorsque l'hôtelier fut hors de vue. « Est-ce que je sais, nous sommes en province, ici. Ce brave homme m'a interloqué avec sa question. Je me suis fait oncle pour ne pas le choquer. « Pourquoi n'avez-vous pas dit que j'étais votre femme ?»« Par respect pour le mariage. »« Merci, » dit Lucienne. « Est-ce que cela te fâchera d'être ma nièce pendant quelque temps ?»« Je voudrais l'être toujours. »« Tu comprends, maintenant, je ne peux me dédire. J'aurai l'air d'un imbécile. Mais si le rôle de nièce t'ennuie, nous quitterons cet endroit dès demain, nous irons ailleurs. »« Pas du tout, » s'écria Lucienne. « Soyez sans crainte, vous aurez une nièce accomplie. »« Oh, je sais que tu es une excellente comédienne. »« Au théâtre, cela n'est pas sûr. » Mais à la ville, je n'ai pas ma pareille. » Lorsqu'ils eurent dîné, elle se leva. « Il faut aller vous coucher, mon petit oncle, » dit-elle. « Le voyage a dû vous fatiguer et je veux que vous soyez frais et dispo demain matin. »« Je suis à tes ordres, mignonne, » dit Monsieur Provost en souriant. Les garçons se précipitèrent avec des flambeaux et les précédèrent jusqu'à leur chambre le long d'un interminable corridor.